Vous écoutez RTL.
En attendant la curiosité, la voici, la voilà, avec Sidonie et Thomas.
Oui, salut Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, on a tous bricolé dans notre garage, mais alors pour certains, ça a débouché sur autre chose qu'une tour en Lego. Par exemple, les fondateurs de Google, ce moteur de recherche qui pèse qu'un petit peu d'argent, 815 milliards de dollars en capitalisation boursière. On va vous raconter la naissance de ce géant.
Et tout de suite, dans la curiosité, on défie l'Everest.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les neiges du Kilimandjaro. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il chante les sommets, Kenji Girac, Soprano, Pascal Danel, la haute montagne au menu de notre curiosité. Bonjour à tous. Ça va, Sidonie?
Ça va très bien, Thomas. Salut les curieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec, comme toujours, cette envie de varier les thèmes et les plaisirs. Hier, c'était le champagne et l'histoire des chevaliers. Aujourd'hui, c'est la naissance de Google et donc de l'aventure avec notre première très grande invitée.
Bonjour, Catherine Destivelle.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes alpiniste et éditrice. C'est en discutant avec vous au Festival Sport, Littérature et Cinéma à Lyon, Festival créé par Thierry Frémaux. J'ai eu l'idée de vous inviter pour parler des dangers de la haute montagne et notamment du sauvetage de l'alpiniste française Elisabeth Revol dans l'Himalaya. On va re-raconter un peu cette histoire. À quel sommet elle s'était attaquée?
Elle s'est attaquée au Nanga Parbat, qui est le 7e sommet plus haut du monde, en fait. Il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors nous, aux Français, on parle en mètres. Pour les Anglais, ça veut en feet, c'est pas la même chose. Donc nous, c'est 14. Et donc là, elle est partie en hiver. Donc, c'est un sommet qui se situe au Pakistan et qui est loin de tout. Il faut bien une semaine de marche pour arriver au pied de cette montagne. Et elle a voulu gravir ça avec un Polonais. Lui, c'était sa 7e tentative et elle, sa 4e.
Ce Polonais, Thomas Makiewicz, surnommé Tomek, est mort pendant l'ascension. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On le sait.
Alors, le problème, c'est que je pense qu'il a fait un œdème cérébral ou pulmonaire et à la descente. Il est monté, apparemment, ce qu'on a vu sur les images, c'est qu'Elisabeth semblait plus forte et que lui, il était derrière et qu'il n'a probablement pas dit à Elisabeth qu'il n'était pas bien.
Qu'il se sentait mal, quoi.
Qu'il se sentait mal. Donc, ils sont arrivés quand même au sommet. Je pense qu'il a d'ailleurs, il n'avait pas de lunettes. Donc, il s'est brûlé les yeux. Parce qu'à cette altitude-là, il vaut mieux avoir des lunettes. Brûler ou geler les yeux, on ne sait pas, la cornée. Et du coup, il est redescendu à moitié aveugle et puis, visiblement épuisé, il a commencé à avoir des gelures aux jambes, apparemment. J'en sais pas beaucoup plus. Mm-hmm. Sauf qu'ils sont protégés dans une crevasse pour passer la nuit. Et puis là, il ne pouvait plus repartir, en fait. Et donc, à ce moment-là, Elisabeth, elle a dormi un peu et puis elle est partie dans un délire. Et heureusement, elle a repris conscience, elle a appelé le routeur qui était en France. Elle avait un téléphone qui lui a dit « descends ». Descends jusqu'à 6000, on ira chercher Tomek plus tard.
On va raconter ces différences.
Et à son retour en France, Elisabeth Revol a raconté cette nuit terrible dans l'Himalaya. On l'écoute.
Je suis sans tente, je suis sans matelas. J'ai rien bu, j'ai rien mangé depuis je sais pas combien de temps. Et là, j'apprends que je dois passer une nuit de fortune à 6007. On est sur une hivernale, on est en Himalaya. Autant dans les Alpes, oui, je peux arriver à passer une nuit de fortune. En Himalaya, je savais même pas que c'était possible, quoi.
Catherine Destivelle, à cette altitude, quelle température il fait et quelles sont les conséquences du froid sur le corps humain?
Alors les conséquences du froid, c'est une dépense d'énergie pour se réchauffer. Je pense qu'elle avait l'air bien équipée quand même, mais ça ne doit pas être super agréable de passer la nuit comme ça. Elle a dû prévoir. Après, c'est la haute altitude surtout qui aussi prend beaucoup d'énergie, parce que plus vous montez, plus votre cœur bat vite pour compenser le manque d'oxygène. Et du coup, le froid plus la haute altitude, ça fait que le corps il est vite affaibli.
C'est quoi des moins, je m'en rappelle, moins 15, moins 20, ça dépend, j'imagine.
Moins 20, mais... je pense que c'est plus que ça. Parce qu'ici, nous, dans les Alpes, on a déjà moins 20. Bon, après, maintenant, avec les changements climatiques, ça peut changer, mais elle a pu avoir des températures entre moins 20 et moins 40, moins 50.
Mais à cette température-là, il y a des parties du visage qui gèlent, il y a les doigts qui peuvent rester paralysés, les pieds.
Alors, les pieds et les mains, en principe, sont protégés par des gants ou des moufles en duvet, et pareil aux pieds. Et pour le visage, par contre, on se surveille et elle a dû mettre un tissu comme du néoprène qui protège. protège. Et puis, quand on est deux, on se protège aussi. On regarde s'il n'y a pas le bout du nez qui devient tout blanc. Ou... Et à ce moment-là, il faut se réchauffer. Ou les oreilles, qui... bon, les oreilles, on ne les laisse pas dehors. Mais...
Ouais, on essaie de se protéger.
Ouais, on surveille, ouais, ouais. Ça c'est important.
Mais il peut survenir ce qu'a vécu Elisabeth Revol, une hallucination, écoutez-la.
Rêver qu'on m'amenait de la chaleur, en fait, des boissons chaudes, et qu'on m'amenait des bouteilles d'eau chaude. Et donc je sentais cette chaleur et je me sentais bien. Dans mon rêve, c'était une dame qui me faisait ça. Et elle me dit, bah écoute, j'ai besoin de ta chaussure, donc est-ce que tu peux me donner ta chaussure? Et là, je pense que mon corps, en fait, s'est machinalement enlevé cette chaussure, alors que je continuais, en fait, à être dans mon rêve. Donc j'ai enlevé cette chaussure et je lui ai donné mes chaussures, quoi. Je suis réveillée le lendemain, j'étais en chaussettes et la première chose que j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc tout de suite, je me suis dit, bon, bah, le pied, il est dans quel état, quoi? Et puis quand j'enlève ma chaussette, effectivement, le pied, il est blanc, quoi.
Est-ce que ça vous est arrivé, Catherine Destivel, d'avoir comme ça des hallucinations en haute montagne?
Oui, mais pas de cette façon-là, pas aussi, pas grave.
C'était comment?
Alors moi c'était au Makalu, qui est aussi au sommet de plus de 8000 mètres où on était deux à entendre, mais on a entendu des hurlements dans la paroi, assez glauques. On était à un bivouac à 7004 dans une crevasse et tout d'un coup hurlement. Et pendant 20 minutes j'ai rien dit. Puis au bout d'un moment, je dis à Eric, t'as pas entendu quelque chose? Puis il me dit, moi si aussi. Et on sait pas si c'était vrai ou pas. C'est assez terrorisant. Mais bon, il y avait rien. A priori, ça devait être le vent. Ouais.
Pourquoi il y a une hallucination? C'est le manque d'oxygène qui provoque ça?
C'est le manque d'oxygène, ouais, je pense. Il y a des gens qui se trouvent. Il y en a. C'est Eric qui me racontait une fois. Il y avait un gars.
C'est qui Eric?
Mon compagnon de cordée, avec lequel j'ai fait beaucoup de choses.
D'accord.
Et qui un jour a vu un compagnon à lui passer devant lui en disant, oh là, il me poursuit avec un fusil et tout. Enfin, des choses. Bon, oui, c'est des délires complets. Ouais. Mais ça arrive, mais c'est lié à la haute altitude.
Elisabeth Revol a dû payer les sauveteurs pakistanais pour être sauvée. C'est un business que l'on vous dévoile juste après la pause. La curiosité continue.
RTL.
Que la montagne est belle.
La curiosité est un vilain défaut.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma mère.
Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Marie Laforêt, Jean Ferrat, c'est vrai qu'elle est belle cette montagne, mais elle est dangereuse aussi. Et ce sont les dangers de la haute montagne qui sont au cœur de notre curiosité du jour avec l'alpiniste française Catherine Destivel. On revenait avec vous sur cet accident dans l'Himalaya qui a tourné au drame avec la française Elisabeth Revol et son compagnon de cordée, Thomas Makiewicz, qui est mort au sommet. Est-ce qu'il aurait pu être sauvé si les secours avaient été beaucoup plus rapides?
Je pense pas, non. Non, non, parce qu'un hélicoptère ne peut pas arriver à 7000 mètres d'altitude, c'est impossible.
Il faut d'abord redescendre, quoi, c'est ça?
Il faut d'abord qu'il descende, il en était incapable. Mmh. Ou alors, il aurait fallu que les deux Polonais qui sont venus chercher Elisabeth puissent monter jusqu'à son altitude à lui, mais je pense que c'était trop tard. Malheureusement, elle a pensé que c'était possible, mais c'était pas, à mon sens, possible.
Alors, il faut raconter dans quelles conditions ce sauvetage, puisque quand même Elisabeth Revol a été sauvée, s'est effectué. C'est une question d'argent. On parle beaucoup d'argent dans cette histoire. Pourquoi?
On parle d'argent parce que les Pakistanais voulaient pas décoller tant qu'ils n'avaient pas d'argent sur la table. Donc, ce qui est normal, hein, je veux dire, d'abord, c'est risqué pour eux. Hein. C'est un vol quand même à 5000 mètres ou 6000 mètres qui est dangereux. D'autre part, je sais pas, ils ont eu peur. Mais en Suisse, c'est pareil. Hein. Vous volez pas comme ça. Enfin, les secours, c'est pas comme ça.
Mais attendez, il y a quand même une question d'urgence là. C'est-à-dire qu'on doit faire quoi? Un virement? J'appelle ma banque?
Oui. Il fallait en cash sur la table. Et en plus, c'était un week-end. Donc, c'était compliqué. Mais il y a plein de pays comme ça. C'est pas que les Pakistanais. Ouais.
C'est pas forcément gratuit le secours en montagne, c'est ça?
En France, on est gâtés.
Mais en France, c'est gratuit.
C'est gratuit, oui, pour le moment. Mais bon, peut-être que ça peut changer, mais pour le moment, c'est gratuit. Et
ça ne vous choque pas, pardon, je vous interromps un petit peu, mais ça ne vous choque pas qu'il faille comme ça mettre en cash, je ne sais pas combien c'était d'ailleurs, pour décoller.
On a entendu tout, je ne sais plus combien.
10 000 euros.
Pour finir, c'est le gouvernement polonais qui a payé. Hein. Il y a eu un crowdfunding, effectivement.
Financement participatif.
Ouais, voilà, où il y a eu. Tout le monde pouvait donner un peu pour payer. Mais cet argent, finalement, n'a pas servi. Et je crois que c'est. Enfin, j'en suis sûre, c'est le gouvernement pakistanais qui a payé.
Mais ça a pris combien de temps, tout ça?
Polonais.
Ça a pris combien de temps de réunir
l'argent,
la somme
ça a été assez vite, je crois. Ouais. Mais bon, après, ils voulaient le cash. Et puis, alors, il paraît qu'ils auraient augmenté le prix au fur et à mesure que les montants s'élevaient. Je ne sais pas si c'est vrai, en fait. Mais peu importe. Le problème, c'est que voler en plein hiver, à ces altitudes-là, c'est quand même pas facile, quoi.
Ça veut
et
dire...
puis, il faut voir la distance, hein, c'est 200 ou 300 kilomètres entre le K2 et le Danga Parbat, et il faut arriver assez haut. Donc, bref, c'est compliqué, quoi.
Catherine Destivelle, ça veut dire que quand vous en avez fait beaucoup, des sommets dans l'Himalaya et un peu partout sur la planète, vous assumez ce risque, c'est-à-dire que vous trouvez ça normal. Est-ce que vous anticipez sur ce qui peut se passer après, c'est-à-dire la
on
chaîne de sauvetage?
On n'anticipe pas, vu qu'on part, on est persuadé qu'on ne va pas avoir d'accident.
Oui.
Donc c'est vraiment, en principe, on prend ses précautions et voilà, on espère que ça va bien se passer, mais on ne part pas dans l'idée qu'on va se faire sauver,
ça
heureusement.
Ça veut dire qu'on ne met pas de l'argent de côté pour payer les secours au cas où.
Il faudrait
des assurances,
en fait.
On prend des assurances quand même minimum pour être évacué du camp de base s'il faut. Mais on n'imagine pas en Himalaya que quelqu'un puisse vous descendre, c'est impossible.
Plus généralement, l'Everest est devenu un business ?
Alors l'Everest, si on parle de l'Everest, le sommet lui-même, un peu oui, un peu pour les, même beaucoup pour les Népalais et les Chinois aussi, parce qu'il y a le côté tibétain qui est assez fréquenté. Donc c'est un business, ils exploitent leur montagne qui est le sommet le plus haut de la Terre. Et du coup...
ça coûte combien ?
Alors ça dépend, il y a tous les prix, ça va entre, pour quelqu'un qui aura envie de le faire en touriste, par exemple vous avez envie d'y aller, vous pouvez payer entre 30 000 et 60 000 euros... la place.
C'est pas mal. Et il paraît qu'il faut participer en ramassant les déchets sur plutôt plusieurs centaines de mètres.
C'est pas vrai. On ramasse ses propres déchets déjà, c'est pas mal. Et puis maintenant, je crois qu'il y a des expéditions qui sont parties exprès pour enlever les anciens déchets. Mais ça, c'est un faux problème. Après, tout le monde dit où la montagne, elle est dégoûtante, il y a plein de déchets. C'est ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, il y a un endroit, c'est au col sud, où effectivement, il y avait beaucoup de bouteilles d'oxygène qui traînaient, etc. Mais tout le bas, depuis longtemps, c'est propre, quoi.
Catherine Destinel, vous êtes éditrice aujourd'hui. On va citer deux des livres que vous publiez. Everest, la première ascension, publiée par Harriet Tuckey, qui raconte l'histoire d'un physiologiste son papa qui a inventé les techniques et qui a théorisé en quelque sorte la haute altitude. Et puis Alpinisme, c'est la saga des inventions dont vous signez la préface. Voilà, il y a beaucoup d'autres livres aux éditions du Mont Blanc à découvrir.
La curiosité continue sur RTL avec Catherine Destivel. Vous allez nous raconter une expérience éprouvante, une grave chute à 4200 mètres d'altitude en Antarctique avec fracture ouverte, rien que ça. Comment avez-vous tenu? Réponse dans une minute sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
14h22 sur RTL. Merci d'avoir choisi la première radio de France dans cette émission dans la curiosité. Vous le savez, on aime les récits d'aventuriers et d'aventurières. C'est ce que notre invitée Catherine Destivelle partage avec nous cet après-midi. Catherine Destivelle, on est en 1996. Pardon de vous demander de revenir sur une mauvaise expérience et un mauvais souvenir, parce qu'il y a eu beaucoup de très belles expériences, de premières, dans plein de sommets dans votre carrière. Mais là, cette année-là, vous frôlez la mort lors d'une expédition en Antarctique. À quel sommet vous vous attaquez ?
Alors, l'Antarctique, c'est un continent avec plein de montagnes qui ressemblent aux Cervins, qui ressemblent aux Alpes. Enfin, pas tout à fait le même rocher, mais enfin, c'est assez fracturé, mais c'est du rocher et de la glace.
Autour de 4000, 5000 mètres d'altitude, c'est ça ?
Oui, il y a toutes les altitudes, mais là où j'ai eu mon souci, c'est à 4200 mètres. Et en fait, pour moi, c'est mon plus gros échec. En montagne, on part, c'est pour revenir. C'est rentrer tranquille à la maison. Là, malheureusement, j'ai fait une bêtise. J'ai perdu l'équilibre au sommet de la montagne en faisant des photos.
Non. C'est bête, ça.
Ouais, c'est un peu bête.
Vous êtes seule ?
Je suis avec Eric,
votre compagnon de cordée. Ouais.
Et puis, en fait...
vous glissez, mais vous tombez, qu'est-ce qui se passe ?
On faisait des photos, j'étais contente parce que ça faisait... on était au sommet, puis on faisait des photos, c'est tout. Et j'ai bougé vite. Et j'ai perdu l'équilibre et je suis partie en arrière et j'ai atterri 20 plus bas avec une fracture ouverte de jambe. En fait, sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, j'étais contente d'avoir qu'une fracture, mais...
Vous avez cru que vous alliez mourir parce que c'était
c'était pas évident, qui me rattrape. Ouais. Parce que là, enfin, la corde s'arrête parce que je tombe première galipette, deuxième galipette, troisième galipette et là, la corde s'arrête. Bon, je dis, ouf, je vais pas en bas. Mais je découvre ma jambe fait un drôle d'angle et en soulevant le pantalon, je découvre une fracture ouverte de jambe.
Et donc là, vous êtes suspendu dans le vide.
Non, c'est une paroi un peu raide, mais pas verticale. Donc là, en Antarctique, il n'y a pas d'hélico, il n'y a personne, il n'y a pas de secours, on est tous les deux et personne autour. Pas
ça veut dire que les premiers humains sont
à une heure de vol, en avion. Et du coup, il y a soit je. Moi, sur le coup, je me suis dit, je vais mourir là. Je me suis rassurée en me disant qu'il allait faire froid et que je ne souffrirais pas. Puis en fait, Eric me dit, on va descendre par la voie qu'on vient de gravir. Donc on est.
Attendez. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude avec une fracture ouverte et il faut redescendre.
Ben, on n'a pas le choix. C'est
oui,
soit
c'est
ça,
vrai.
Soit je meurs.
Mais donc il vous tire parce que vous ne pouvez plus marcher.
Alors, il me descend à l'arbre de corde et au bout de la corde, je faisais des relais. Relais, ça veut dire mettre une sangle autour d'un béquet ou planter un piton pour faire des relais pour qu'on l'assure et la cordée.
Ouais.
Puis ensuite, il descend des rappels et, puis, et ainsi de suite. On faisait 20, 25 mètres à chaque fois.
Ça a pris combien de temps pour descendre?
Et après, le problème, c'est qu'il a fallu attendre 3 jours qu'un avion puisse venir si la tempête s'est levée. Donc c'était un peu dur et c'est une expérience. Mais bon.
Et vous avez fait quoi, votre blessure? Vous avez mis quelque chose dessus? C'est resté ouvert pendant 3 jours?
Arrivé à la tente, j'ai mis de la bétadine.
Ça vous fait rigoler.
Des antibiotiques.
J'ai pris des antibiotiques pour ne pas éviter l'infection. Ouais. Puis voilà, heureusement, j'étais kiné, je savais à peu près ce que j'avais. Et voilà, puis j'ai évité de me geler aussi, toute la descente, les pieds, les mains. C'était un peu la lutte.
Et Catherine Destivelle, est-ce que vous avez toujours le souvenir de la douleur ressentie? Est-ce
douleur,
que votre
non.
corps a mémorisé ça?
La douleur, quand ça bougeait, ça faisait mal, évidemment.
Ouais.
Mais la douleur, non, c'est pas ça qui reste. Qui est resté, c'est envie de m'en sortir. Donc, c'est la ténacité, c'est faire attention à tout, respirer correctement, faire attention à ne pas me geler en plus le reste.
Mm-hmm.
Et puis, gérer tout ça.
Donc,
pour,
la leçon,
pour m'en
sortir. C'est qu'il faut avoir peur quand on va en montagne. C'est une bonne conseillère, la peur, ou c'est plutôt la prudence?
La peur, c'est bien d'avoir peur avant et du coup bien se préparer. Une fois qu'on y est, en principe, on n'a plus peur. Mais moi là, j'avais effectivement peur d'y rester, moi j'ai jamais eu. Enfin, j'ai fait beaucoup d'autres choses et là, c'est un truc dont on a le plus parlé. Mais pour moi, c'est un échec, donc ça m'énerve. Parce que,
alors justement,
effectivement,
oui, on comprend. C'est pour ça que
bien.
Je me suis excusé au début. Et alors, votre plus grand exploit, le meilleur souvenir, c'est quoi le plus grand exploit de Catherine Destivelle?
Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est différent et on repousse toujours les challenges.
Une première, il y a des phases que vous avez ouvertes, comme on dit.
Je peux dire que la face Nord Liger m'a beaucoup... M'a bien plu. C'était
alors, c'est
face à la Eiger, c'est une grande montagne en Suisse qui fait 1800 mètres de dénivelé. Et je l'ai faite en hiver. Alors en hiver, c'est pour éviter de prendre des risques avec les chutes de pierre, parce qu'elle est connue pour les chutes de pierre. Et je voulais la faire en hiver, en solitaire. Et là, j'étais assez fière de moi.
Vous n'avez pas fait de photo?
Non, je n'ai pas fait de photo.
C'est fini ça.
Vous étiez à l'époque, je crois, la première. Première alpiniste ou première femme
Première alpiniste dans la technique que j'ai utilisé, c'est-à-dire que je l'ai fait sans reconnaissance préalable. Après, tout le monde a dit première féminine, mais c'est pas grave, on s'en fout.
Ouais. Ouais, non, on est sensible à ça.
Mais je vois.
Bon, bravo, il y a eu plein d'autres exploits.
C'est
très spécialisé. Vous allez nous en raconter un, alors je sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir, c'est une petite douzaine de jours passés sur les drues dans un hamac. Ça, dit comme ça, ça a l'air sympa, mais c'était
j'espère
peut-être un
peu
plus compliqué.
J'espère que vous aviez des livres.
Et puis dans quelques minutes, autre sujet
de
curiosité sur
RTL. Ah oui, on va parler du géant Google, sa naissance, sa puissance et ses dérives. Restez avec nous, s'il est curieux.
Sur la période novembre-décembre, comme sur l'ensemble de l'année 2017, vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France. RTL enregistre sa meilleure année depuis 10 ans.
RTL, c'est chaque jour plus de 6 500 000 auditeurs. Grâce à vous, RTL est la radio qui rassemble chaque jour le plus grand nombre d'auditeurs. C'est aussi la radio écoutée le plus longtemps.
Très beau résultat qui conclut une année record en 2017. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 10 ans.
Merci pour votre confiance et votre fidélité.
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite.
La curiosité est un vilain défaut.
Descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous avons gravi la montagne. Nous avons atteint le sommet.
J'ai beau faire, j'ai beau dire, j'ai pour elle le cœur comme une montagne. Le cœur comme une montagne.
La curiosité est un vilain défaut.
Et Johnny qui nous emmène en montagne. On est toujours avec Catherine Destivelle, alpiniste et éditrice. Vous écoutez de la musique quand vous faites une escalade ou surtout pas? Faut pas
surtout
se laisser déconcentrer.
Surtout pas. Ouais. L'ambiance, le son est très important.
Ouais. Ça fait du bruit la montagne?
Oui. Ça fait du bruit, il y a le vent, les prises, le rocher, les pieds, enfin tout est important et du coup, non, j'écoute pas de musique.
Ah ouais, alors je disais que vous êtes éditrice, vous publiez tiens, par exemple une saga des inventions, livre de Gilles Modica et votre maison d'édition, c'est les éditions du Mont Blanc. Il y a aussi Everest, la première ascension, toujours avec l'auteur, c'est Ariette Tuquet. Est-ce qu'il y a des livres sur votre propre histoire aussi?
Oui, mais pas publié, Mont Blanc pas publié chez moi.
Ah d'accord, ok. Et alors, moi j'aimerais...
de textes ouais. Anglais ou espagnols, traductions. Alors malheureusement, c'est souvent des tragédies, mais...
Des romans policiers aussi ?
Oui, des polars. Alors, Mont Blanc Noir. J'en publie... Là, je commence le premier, il est sorti hier. Je vais en publier 3-4 par an, je pense. Ouais.
Une petite histoire pour terminer avec vous. Enfin, une petite histoire, une grande histoire pour terminer avec vous. Cette ascension des Drus. C'est quoi les Drus ?
C'est
une phase...
Les Drus, c'est un sommet qui est juste au-dessus de Chamonix, qui fait à peu près 1000 mètres de haut, en pur rocher, de beau granit. Ouais. Et j'avais voulu ouvrir une nouvelle voie. Et
1991, ça se passe comment ?
Et du coup, le rocher étant bien compact, il fallait que je grimpe en artificiel. Artificiel, ça veut dire planter un clou, monter dessus, en planter un au-dessus, etc.
Ça prend un peu de temps.
Ça prend du temps. Et du coup, il y a un jour, je me souviens, j'ai fait que 30 mètres. Tellement c'était compliqué de pitonner ce truc. Et du coup, alors parce que le but aussi, c'est de ne pas faire des trous dans la roche. Hein. On fait des pitons, on utilise les failles et on met des crochets, on se débrouille pour laisser la roche toute propre. Ça, c'est le jeu de cette technique.
Et on dort comment ? On dort où ?
Et on dort sur un hamac, dans un hamac ou sur une plateforme. Ça dépend ce qu'on trouve. Et voilà.
Et ça vous a pris combien de temps de réussir cette première ? Parce que ça aussi, c'était une première.
11 jours. C'était un grand... Il faut le prendre comme un voyage. Hein. Faut pas s'énerver.
C'est un bon ou un mauvais souvenir ?
Bon, il est mauvais. Bon, parce que finalement, c'était pas mal. C'était comme des vacances. Et mauvais parce que c'était très lent et que je suis pas très patiente. Du coup, je trouvais que l'escalade libre... Alors, l'escalade libre, c'est grimper sans, justement, l'utilisation des pitons. C'est encordé, bien sûr, mais en assuré, mais sans tirer sur les pitons en place. Voilà, les libres, c'est ça. Et alors, vous avez l'escalade solo, il n'y a pas d'assurance du tout.
Bon, merci beaucoup Catherine Destivel. Vous savez quoi ? Vous allez revenir dans la curiosité parce qu'on a encore plein d'histoires de montagne à partager avec vous.
Merci
et
Catherine.
Et on conseille à nos auditeurs d'aller sur le site des éditions du Mont Blanc pour découvrir les livres que vous publiez. Merci beaucoup.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.